résistance et mémoire. Les jeunes gersois à la recherche de leurs histoires.
Bonjour.
Nous sommes des élèves de terminale STMG du lycée Pardaillan à Auch, dans le Gers. Je m'appelle Zoé.
Moi, c'est Perrine.
Et moi, c'est Célia. Aujourd'hui, nous enregistrons une émission sur l'opération de minuit.
Nous allons repartir dans le passé, celui de la résistance, pendant la Seconde Guerre mondiale.
Plus précisément, le 13 décembre 1943, lors d'une nuit terrible où des soldats allemands ont capturé des dizaines de jeunes résistants. C'est ce qu'on appelle l'opération de minuit.
Nous allons vous faire vivre cet événement tragique qui s'est déroulé en partie chez nous, dans le Gers. Dans quelques instants, nous allons entendre des témoignages, des reportages et des chroniques.
Pour nous aider à comprendre cette histoire encore très peu connue, nous sommes aussi accompagnés de Jean Moncassin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fils du résistant gersois André Moncassin. Et vous êtes secrétaire national de l'Association des anciens du corps franc-pommiers. Nous nous sommes rencontrés en décembre dernier, lors d'une très belle cérémonie de commémoration que vous avez organisée.
À vos côtés, Elérica Leroy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement de l'opération de minuit dans toute la région toulousaine. Merci d'être parmi nous. Avant de vous laisser la parole, sachez que pour nous, cette histoire était complètement méconnue.
Oui, honnêtement, déjà on ne savait pas que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des groupes actifs de résistants dans le Gers.
C'est vrai. Et personne dans la classe n'avait entendu parler de ces arrestations. Loane et Étienne, vous venez de nous rejoindre pour nous en dire plus sur l'opération de minuit.
Bonjour. On a découvert que l'opération de minuit est la plus grande opération de répression déclenchée contre la résistance à Toulouse et dans la région. Elle se déroule au petit matin du 14 décembre 1943. Les résistants sont arrêtés par la Gestapo, venue de Toulouse. Dans le Gers, entre autres, le château de Pont-Saint-Père est visé. Il abrite des résistants, pour la plupart des anciens soldats du régiment des 2e Dragons, qui deviendra ensuite le corps franc-pommiers, ainsi que des réfractaires au service du travail obligatoire. Dis-nous, Étienne, comment s'est déroulé le coup de filet ?
Ce jour-là, les policiers allemands interpellent simultanément 110 personnes dans la région. 52 responsables sont arrêtés à Toulouse. À Pont-Saint-Père, dans le sud du Gers, 20 résistants sont pris au château de Cour. Ils sont ensuite conduits en fin d'après-midi dans un camion militaire bâché jusqu'à la Feldgendarmerie d'Auch, située à l'actuel Hôtel de France. Les résistants sont ensuite transportés en bus jusqu'à la prison Saint-Michel à Toulouse. Là-bas, ils sont tous torturés et la plupart d'entre eux sont déportés en janvier dans des camps en Allemagne. 10 Gersois sont morts en déportation. 2 d'entre eux ont pu s'évader par la suite.
Merci Loane et Étienne. Après avoir fait des recherches sur l'opération de minuit, nous sommes allés le 14 décembre dernier à la cérémonie de commémoration des 80 ans de cette rafle. Nous étions à Pont-Saint-Père, un petit village de 134 habitants situé au sud de Mirande. C'est là, au château de Cour, que les jeunes gersois ont été capturés.
Nous allons procéder donc à la lecture des noms des victimes. Pierre Boudet.
Mort à déportation.
Adalbert Cosette.
Mort à déportation.
Fernand Delien.
Mort à déportation.
Raymond Denisot.
Mort à déportation.
Armand Declerc. André Drancourt.
Mort à déportation.
Julien Jacques.
Mort à déportation.
Joseph Halvé.
Mort à déportation.
Lucien Pérus.
Mort à déportation.
Robert Fouchelot.
Mort à déportation.
Bernard Bailly.
Mort à combat.
Paul Agé.
Mort à combat.
Daniel Lavignotte.
Mort à combat.
Gilbert Schwartz.
Mort à combat.
Je m'appelle Laurence Soriano, j'ai 57 ans, je suis le maire de cette commune depuis une dizaine d'années. Chaque année, le 14 décembre, on se retrouve devant la stèle du château. Depuis que je suis maire, je me rends compte à quel point c'est important, alors pour les personnes âgées qui l'ont vécu, pour le devoir de mémoire, pour ne pas oublier, parce que je sens que le racisme revient, qu'on perd un peu les fondations de notre belle société démocratique. Je trouve que se rappeler de ce que les anciens ont fait pour nous, et c'est bien d'avoir la conviction de ses idées, et c'est bien de les défendre jusqu'au bout. C'est ce qu'ils ont fait.
Voilà, on entend un extrait de l'hommage, avec notamment la maire de Pont-Saint-Père. Une centaine de personnes étaient présentes, dont vous, Jean Mocassin. Maxence et Enzo, vous avez quelques questions à poser à nos invités.
Bonjour Madame Leroy, pouvez-vous nous expliquer pourquoi la Gestapo a organisé cette immense vague d'arrestations dans la région toulousaine, alors qu'à ce moment-là, ici dans le sud-ouest, nous sommes en zone libre?
Alors nous sommes à une période, donc fin 1943, où la résistance s'intensifie et depuis Paris, on a décidé en octobre 1943 de neutraliser les mouvements de résistance qui pour certains sont identifiés. Dans le Gers, nous ne sommes pas encore en zone occupée. Ce sera le cas à partir du 11 novembre 1942. Et en décembre, les moyens sont mis pour opérer ces arrestations à partir des informations que la Gestapo a recueillies.
Comment la police allemande a-t-elle su où chercher ses victimes et qui les a dénoncées?
Alors, la Gestapo est particulièrement bien informée. Elle a des services qui ont infiltré la résistance et les différents mouvements. Et puis, effectivement, des dénonciations sont venues confirmer les informations qu'avaient les Allemands, ce qui a conduit aux arrestations précises de cette opération de minuit.
Monsieur Mocassin, pourquoi le maquis de Pont-Saint-Père dans le Gers a-t-il aussi été la cible de cette arrestation?
C'est qu'à cette époque, c'était le plus important rassemblement de jeunes gens, donc dans ce château de cour, sous couvert de chantiers forestiers, mais en réalité donc comme élément du maquis.
Lors de la cérémonie de décembre dernier, nos camarades Julien et Léo, accompagnés de Sophia, ont rencontré Kevin Dieu.
Oui, moi, Julien, j'ai rencontré Kevin Dieu. Il a 33 ans et il est petit-fils de résistants. Il a rassemblé une impressionnante collection d'objets liés à la Seconde Guerre mondiale, notamment sur la résistance dans le Gers. Ce passionné d'histoire nous explique l'importance stratégique du village de Pont-Saint-Père.
Pont-Saint-Père était assez éloigné des grandes villes. Auch, c'était assez loin, Tarbes assez loin, Toulouse également. C'est un lieu qui est assez isolé, mais on peut voir assez rapidement l'arrivée d'Allemands ou de troupes ennemies qui seraient venues. Mais c'était également propice pour recruter des jeunes, parce que le château de cour était assez grand. Pour recruter ces jeunes, il faut les loger et il faut les occuper. Il y avait les chantiers forestiers aux alentours qui étaient un bon prétexte pour employer ces jeunes qui en fait s'employaient au camouflage du matériel en vue de passer en résistance après le débarquement allié.
Avant l'opération de minuit, ils étaient en préparation, c'est ça?
Tout à fait. Sous couvert de travaux dans les forêts, en réalité, ils se regroupaient pour avoir une instruction et militaire, mais également récupérer du matériel, des parachutages et passer à l'action au moment voulu.
Monsieur Mocassin, pouvez-vous nous préciser qui sont ces résistants dont parle Kevin?
Les résistants du maquis de Pont-Saint-Père étaient un encadrement du 2e dragon d'Auch, avec donc Jacques Miller à sa tête. Et cet encadrement donc permettait à une vingtaine de jeunes gens qui étaient d'origine géographique diverse, ils étaient là sous couvert de chantiers forestiers, mais en réalité ils préparaient déjà l'action de la lutte qui se déroulera ou qui se déroulerait au mois de juin de l'année suivante.
Mais c'est quoi le deuxième dragon ?
Le 2e Dragon était un régiment basé à Auch, dans ce qu'on appelle le quartier Espagne. Il avait à sa tête le colonel Schlesser et il était composé donc essentiellement de cavaliers. Il y a d'ailleurs dans la mémoire des Occitains de grandes cérémonies où on voyait les cavaliers et leurs chevaux grimper l'escalier monumental quasiment tous les matins. Ensuite, ce 2e Dragon a été dissous au mois donc de novembre 1942, mais avant d'être totalement dissous, il a eu la possibilité de cacher, de dissimuler un certain nombre d'armements. Et grâce donc à cet armement, les soldats ont été répartis dans d'autres réseaux de maquis.
Madame Leroy, tous les résistants ne venaient pas du Gers ?
Oui, je vous le confirme. Beaucoup sont de jeunes hommes, souvent réfugiés des territoires de l'Est qui ont été annexés par l'Allemagne nazie. En particulier l'Alsace, la Moselle.
Pourquoi ils venaient dans le Gers ?
Alors je pense que les raisons sont multiples. Certains y avaient peut-être de la famille. On cherche, on est dans des conditions difficiles. On trouve refuge où on peut. Souvent c'est par camaraderie ou par liens familiaux.
Au cours de nos recherches, nous avons découvert que les résistants gersois n'étaient pas seuls. Dans son exposition consacrée au corps Franc-Pommiès, Kevin, le collectionneur passionné, nous explique d'où venait l'aide extérieure et comment fonctionnaient notamment les parachutages.
Le conteneur de parachutage, c'est le tube que vous voyez là, ici, métallique, dans lequel étaient parachutés les fusils armements par les Anglais et les Américains. Donc il y avait différents modèles, conteneurs métalliques. Il y a les gros modèles, mais les petits modèles pour les munitions, mais également conteneurs en tissu qu'on appelait plutôt paquets, qui étaient livrés par les Américains pour des charges inférieures à 100 kg.
Et ici, ils larguaient des colis comme ça ?
Tout à fait, c'est pour ça que j'ai présenté le parachutage. Dans le Gers a eu lieu le premier parachutage en 1943. Et à Pont-Saint-Père, ils ont eu quelques armes issues des parachutages, mais c'était vraiment les débuts, les premiers parachutages.
C'est quoi ça ?
Ça, ce sont des tracts. Qui étaient distribués pour motiver les résistants en leur disant « on ne vous oublie pas, voilà ce qui se passe dans le monde » parce que la communication à l'époque n'était pas celle d'aujourd'hui, on n'avait pas internet, on n'avait pas accès à la radio comme aujourd'hui, c'était assez restreint. Du coup, il fallait motiver les résistants en leur larguant des tracts. Vous avez ce modèle-là, mais vous avez également le Courrier de l'air, ça c'était un journal de De Gaulle où c'est qu'il expliquait les actualités de la guerre. C'était les avions qui distribuaient des tracts sur les populations et dans les villes. Mais évidemment, les Allemands s'empressaient de tout ramasser et de tout brûler. Vous voyez, j'ai présenté le matériel qui était parachuté. Alors ça va du pansement, mais également les objets pour le sabotage, parce que le sabotage jouait un rôle très important dans la résistance pour faire dérailler les trains notamment. Les munitions, et là vous avez un foulard en soie sur lequel est représentée la carte de France, qui était soit parachuté, mais souvent utilisé par les pilotes d'avion lorsqu'ils s'écrasaient au sol pour se guider, et ensuite ils le brûlaient pour effacer les traces.
Monsieur Mokassem, après les arrestations de l'opération de minuit, est-ce que les parachutages se sont arrêtés dans le Gers ?
Eh bien non, et même ils ont été accentués. C'est-à-dire que jusqu'à la date fatidique du 6 juin 1944, qui sera la date de la lutte ouverte, tous les parachutages qui ont été réceptionnés ont permis donc de constituer un armement qui trouvera son utilisation durant la lutte de l'été 44.
Mais il n'y avait plus de parachutage à Pont-Saint-Père ?
Ah, sur Pont-Saint-Père, non, c'était grillé. Enfin, il n'y avait plus personne pour les recevoir.
Madame Leroy, quels sont les autres acteurs de la résistance dans le Gers ?
Dans le département du Gers, vous allez trouver toutes les formations de la résistance, tant dans le renseignement que dans les réseaux d'évasion, dans les agents de liaison, la communication, la contre-propagande. Il y avait une imprimerie fort célèbre et fort utile à Hoche pour la résistance. Voilà. Et puis d'autres maquis qui relevaient plus des mouvements unis de la résistance, quoi que...
Si je peux rajouter à propos donc de l'imprimerie moderne située rue Lamartine, donc à Hoche, c'est là qu'a été imprimé le chant des partisans pour la première fois. Et d'autre part, il y avait d'autres mouvements de résistance qu'on appelait des bataillons. Il y avait le bataillon Prosper au nord, il y avait le bataillon Reynaud aussi à l'est et au sud-est, bataillon Reynaud qui sera tristement célèbre par l'attaque du maquis de Meillan. Il y aura 76 victimes. Et on termine donc évidemment par le bataillon de l'Armagnac qui agissait plutôt dans la région ouest du département.
Madame Leroy, ce tableau que nous avons fait de la résistance dans le Gers est-il comparable avec celui de la résistance dans le reste de la région toulousaine ?
Alors, on retrouve certaines spécificités propres au Gers dans d'autres départements. Je pense en particulier à l'Ariège, même si ce ne sont pas les mêmes composantes ou convictions. Ce sont surtout des Espagnols en Ariège, des guerrilleros, et des communistes au sein de maquis FTPF, francs-tireurs partisans français. Après, toute la région pyrénéenne est marquée par l'importance des réseaux d'évasion et également des réseaux de renseignement.
Merci beaucoup pour ces éclairages. Pour comprendre un peu mieux ce que signifie « résister pendant la guerre », lors de la cérémonie du 14 décembre dernier, nous avons eu la chance de rencontrer des témoins directs ou indirects de cette période sombre.
Lors de la cérémonie d'hommage, Maëva et Roman, vous avez aussi recueilli un témoignage marquant.
En effet, pendant notre sortie à Pont-Saint-Père, le 14 décembre dernier, nous avons découvert l'histoire de Claire Bécard par hasard, alors que nous étions en train d'interviewer d'autres invités.
Lorsqu'elle a commencé à nous parler, nous avons été touchés par son récit. Claire est la fille de Louis Payas, qui est entrée dans la résistance à l'âge de 17 ans.
Il était jeune, il est entré au corps franc-pommiès dans l'année de ses 17 ans, printemps 43. Et au début, il était agent de liaison, c'est-à-dire dans la résistance civile. Il était lycéen à Toulouse. Il devait porter des courriers d'un point à un autre point. Ça n'était jamais le même endroit, jamais les mêmes personnes, dont il ne connaissait pas les noms, mais simplement des fois des surnoms. Ou bien il y avait un début de phrase et la personne devait terminer la phrase pour remettre ce courrier. Alors comment il faisait pour cacher ce courrier? Il était tout le temps en vélo. Et il dévissait la selle de son vélo, il roulait la lettre dans le tube du vélo, il revissait la selle et il passait comme ça les barrages. Il s'est plusieurs fois fait arrêter à des barrages allemands qui fouillaient les sacoches de son vélo, qui trouvaient des cours mais rien d'autre. Et comme il parlait bien allemand, il était toujours très poli. Il disait « Guten Tag, bonjour, comment ça va, il pleut, il neige, il vente, etc. Il fait très chaud. » Et donc il ne se méfiait pas, il a toujours traversé les barrages sans problème et il portait ses lettres, voilà, d'un point à un autre. C'était vraiment une responsabilité très ciblée et il fallait qu'il en sache le moins possible de façon à ce que, évidemment, s'il était arrêté, il ne puisse pas donner d'informations trop précieuses.
Merci Roman et Maëva. On le comprend, les activités de résistance n'étaient pas que militaires et peuvent prendre des formes très diverses. Léa et Nora, qu'avez-vous appris de votre côté ?
Nous avons eu l'occasion de discuter avec Denise Mestre à l'occasion du 80e anniversaire de l'opération de minuit. Denise Mestre est l'épouse d'un résistant. Elle est née le 22 décembre 1934. Elle avait 9 ans quand sa famille, qui vivait à proximité de Pont-Saint-Père, a accueilli un jeune résistant âgé de 22 ans. Celui-ci est devenu bien plus tard son mari.
Denise était donc une petite fille au moment de la résistance et son rôle était avant tout de garder le silence.
Moi, j'ai participé, si vous voulez, à ma façon. J'avais 9 ans, j'étais une petite fille très curieuse, qui écoutait tout, qui ne répétait rien, qui aimait, quand il y avait des réunions, tout ça, on me mettait au lit. Il y avait une grande pièce et la chambre était à côté. Et maman venait me voir, je faisais semblant de dormir. Oui, oui, elle dort. Allez, on peut commencer. Ça fait que j'ai entendu, je savais les parachutages, je savais tout ce qui se passait. Mais je ne répétais rien, mais j'étais curieuse et je savais tout ce qui se passait. C'est pour ça que je peux le raconter, parce que je savais que papa recevait les résistants, ce qu'il leur conseillait, ce qu'il leur disait. Je sais qu'il y avait des doutes sur certaines personnes. Je sais que maman, en revenant du marché, disait « Oui, tu sais, elle a dit, cette dame, on n'est pas méchant, mais ces gens qui sont là, je ne sais pas ce qu'ils y font, parce qu'il y avait des résistants qui étaient dans des fermes. » Et voilà, elle disait ça. Il y avait des gens quand même qui étaient soupçonnés, mais je le garde en mémoire et je l'ai toujours en mémoire. Ça.
Madame Mestre nous a également montré un document permettant de comprendre que le partage de nourriture était un enjeu majeur pour la résistance. Même pendant les fêtes, les villageois leur fournissaient de quoi bien manger. Écoutez.
Alors ça, c'est, je vais vous donner, c'est mon mari, Pierre, Noël 42, c'est-à-dire un an avant. C'était lui qui était chargé de faire le menu de Noël, Pont-Saint-Père, le 25 décembre 42. C'est lui qui a fait tout le menu, même le gâteau. Voilà, prenez-le.
Alors, en entrée, salade variée, œufs mimosa, après foie de veau, sauce madère, dinde de Noël, pommes rissolées, fromage, crème, gâteau meurtre. Mestre, pardon.
Et il m'a dit, j'avais de la farine, pas beaucoup de beurre. C'était très bourratif, mais il en mangeait quand même.
Café et liqueur. Et tabac varié.
Et là, les vins.
Ah oui. Et les vins, alors, grand ordinaire, blanc cru, pouille.
Du pouille, c'était des gens, les pouilles d'ici, qui leur avaient donné du vin.
Et gaillac mousseux.
Voilà.
Il manquait de rien.
Voilà.
Dans le Gers, on ne manquait pas de quoi manger ici.
Ah ben les gens ont été gentils. Avec eux ici, toute la population leur a donné, ils tuaient des veaux, des cochons, etc. Ils étaient nombreux, il fallait qu'ils mangent.
Denise Mestre était bien trop jeune pour participer à la résistance. Mais quel fut le rôle des femmes contre l'occupation nazie ? Lina et Juliette, vous nous présentez une gersoise au parcours exemplaire.
Emma Saucède est née à Mirande le 7 avril 1904. Elle a une trentaine d'années quand débute la guerre. Il faut imaginer Emma, brune, avec une coupe à la garçonne et un regard mystérieux.
Emma Saucède est une grande figure de la résistance dans le département. Ses états de service sont aussi peu connus que peu communs. Avec sa compagne, Henriette Durieux, elle s'implique pleinement dans la résistance gersoise dès 1942.
Quel est leur rôle ? Elles trouvent des caches pour mettre en sécurité les armes parachutées par les Alliés. Une très bonne planque, par exemple, sera la scierie du frère d'Emma. Cette dernière est aussi connue pour son soutien aux jeunes maquisards de Pont-Saint-Père.
Elle parvient à leur obtenir des tickets d'alimentation et des fausses cartes d'identité, notamment pour ceux qui ont fui le STO, le service du travail obligatoire.
Lors de l'arrestation du 14 décembre 1943, selon certaines sources, il semblerait qu'Emma Saucède et Henriette Durieux aient averti le lieutenant Jacques Miller, le chef du maquis de Pont-Saint-Père, juste avant le coup de filet des Allemands. Il habitait alors à Mirande et grâce à leur message, il a pu disparaître à temps sans se faire arrêter.
Suite à cet événement, Emma et Henriette se sentent surveillées. Elles entrent en clandestinité. Elles errent de village en village et évitent ainsi d'éventuelles recherches jusqu'à la libération en 1944. Elles reviennent ensuite à Mirande.
En 1958, Emma Saucède reçoit la croix dite du combattant volontaire de la résistance. Henri Calliol, de la Société archéologique du Gers, nous raconte cette anecdote. Avant de lui remettre sa médaille, un fonctionnaire demande à Emma ce qu'elle a bien pu faire pendant la guerre. Elle lui répond :
Je considère avoir accompli tout mon devoir. C'est une satisfaction personnelle que l'attribution au nom de la croix du combattant volontaire de la résistance ne pourra en rien changer.
Cette grande résistante, au courage exceptionnel et au caractère bien trempé, a vécu le restant de sa vie avec son amoureuse Henriette. Elle est morte à Mirande en 2003, à presque 100 ans.
Merci Juliette et Lina. Les femmes ont évidemment joué un grand rôle dans la résistance. Pour autant, leurs exploits sont rarement relatés. Victor et Jade, vous avez quelques questions à poser à Madame Leroy à ce sujet.
Oui, on se demande quelle fut la proportion de femmes dans la résistance.
Alors donner des chiffres, c'est toujours compliqué, surtout s'agissant des femmes. 9% d'entre elles ont un titre de combattant volontaire de la résistance, donc des faits reconnus et attestés. Pour autant, nombre d'entre elles n'ont pas demandé de reconnaissance. C'est pas pour autant qu'elles n'ont rien fait.
Pourquoi elles n'ont pas demandé reconnaissance ?
Pour beaucoup de femmes, elles ont agi, elles ont fait leur devoir, comme on l'entendait précédemment. Leur mari avait eu ce titre de combattant volontaire de la résistance et elles estimaient qu'elles n'avaient pas à le demander.
La figure d'Emma Saucède est-elle représentative du rôle joué par les femmes dans la résistance ?
En France, oui, effectivement, c'est souvent un rôle d'agent de liaison qui cache des messages, qui transmet des armes ou des informations avec son vélo, parce que les femmes passaient plus facilement les barrages allemands. Pour autant, d'autres femmes ont eu des rôles importants, même si elles n'ont pas porté les armes en France.
Justement, connaissez-vous d'autres grandes résistantes de la région qui méritent d'être mieux connues ?
Beaucoup de femmes mériteraient d'être mieux connues parce que assurer la logistique d'un maquis, cacher un militaire allié avant qu'il franchisse les Pyrénées, transmettre des messages, c'était des actes extrêmement courageux. En Midi-Pyrénées, nous avons l'une des trois femmes en France à avoir dirigé un réseau d'évasion. Elle s'appelait Marie-Louise Dissard, dite Françoise, et elle n'a pas la reconnaissance nationale qu'elle mériterait. Nous avons aussi à Toulouse une femme d'origine biélorusse qui a dirigé un maquis de 250 hommes dans la Meuse. C'est extrêmement rare, elle s'appelait Catherine Varlin et elle mériterait d'être mieux connue. Mais il y en a bien d'autres.
À la fin de la guerre, les résistantes ont-elles été honorées à la hauteur de leur combat ?
Alors... Non, on va être clair. 6 femmes seulement ont le titre de compagnon de la libération, c'est sur 1038 compagnons. Ça en dit déjà beaucoup. La reconnaissance de l'action des femmes dans la résistance est encore un chantier historique à mener et un chantier mémoriel. Et ce que vous faites aujourd'hui avec votre émission contribue à rendre hommage à ces femmes qui sont passées sous les radars de l'histoire.
Est-ce qu'il existe autant de recherches sur les femmes résistantes que sur les exploits masculins ?
Alors on espère que dans les années qui viennent, et peut-être avec votre génération, des travaux sur l'engagement féminin pendant la Seconde Guerre mondiale seront accentués. Mais c'est vrai qu'on préfère raconter des faits militaires, notamment, dans les livres d'histoire.
Pourquoi il y a si peu de reconnaissance ?
C'est l'histoire de l'humanité, j'ai envie de dire. Une grande historienne qui s'appelle Michèle Perrault a écrit un livre qui s'appelle « Les femmes ou les silences de l'histoire ». Donc il faut être militant et s'intéresser à ces actions anonymes qui ont été essentielles également pour les maquis. Voilà.
Merci beaucoup pour ces éclairages. C'est la fin de ce premier épisode. On se retrouve très vite pour entendre des témoignages exceptionnels sur l'opération de minuit.